civisme et droits du citoyen pour connaître ses droits, maîtriser ses devoirs et ses obligations.
Est-ce que les gens naissent égaux en droit à l'endroit où ils naissent ?
Civisme et droits du citoyen, une émission pour un développement endogène du citoyen et de la société. Civisme et droits du citoyen, une émission de la web radio Awevi présentée par Spero Maolé. Soyez au rendez-vous tous les mardis à 17h, rediffusion tous les dimanches à 14h. Awevi Info, l'information comme si vous y étiez.
Bien chers auditeurs de Awevi Info, nous voici à l'heure de notre émission Civisme et droits du citoyen. Civisme et droits du citoyen, c'est une heure pour comprendre, maîtriser et avoir des informations sur le droit, la citoyenneté et le civisme. Civisme et droits du citoyen, c'est votre rendez-vous quotidien pour vous permettre de mieux appréhender la chose juridique. En Afrique traditionnelle et notamment dans les temps anciens, il est clair que le mysticisme, le pouvoir que nous avons pris l'habitude d'appeler aujourd'hui le pouvoir occulte, en tout cas les croyances et les puissances que nos grands-pères manipulaient, malgré tout ce qu'on pouvait leur reprocher, avaient quand même quelque chose d'intéressant, ou tout au moins relativement d'assez bien, c'est que ça obligeait un certain nombre de personnes de respecter la propriété privée. Le vol, le mensonge et tout autre défaut étaient réglementés, étaient punis, était corrigé par un certain nombre de pouvoirs qu'on mettait en œuvre. Le voleur craignait même de mourir, ne serait-ce que lorsqu'il pleut, et que les coups de tonnerre commencent par éclater. Parce que s'il a volé, et que entre-temps, nos célèbres gongoneurs sont passés pour demander à celui qui a volé de restituer la chose et qui n'a pas pu le faire, dès qu'il a plu et dès que les coups de foudre éclatent, notre ami voleur a potentiellement l'occasion de mourir. En tout cas, sa case peut être fendue en deux. Et mieux encore, il y a de ces pratiques qui permettaient de déceler le malfaiteur ou le voleur. Les fameuses abeilles qui peuvent démasquer celui qui a volé en le couvrant entièrement le corps, en lui couvrant entièrement le corps jusqu'à ce qu'il ne se confesse. Voilà autant de choses qui obligeaient les gens à se comporter correctement. La femme qui commet l'adultère et qui rentre à la maison commence par avoir des écoulements sanguins jusqu'à ce qu'elle n'avoue. C'est l'occasion de reconnaître que même s'il y a des marges d'erreur dans ces pratiques, elles ont le mérite de faire craindre la sanction au point que les gens avaient un comportement plus correct. Peut-être qu'à une de nos émissions, nous prendrons le temps de voir comment on gérait la justice en Afrique traditionnelle. Mais en tout cas, et le voleur, et ses complices, et tous ceux qui ont eu connaissance de ce vol et qui ne l'ont pas dénoncé, étaient punis de façon mystique. Il y a même des endroits dans nos territoires qui sont devenus célèbres rien que ça, rien que pour ça. Nous connaissons le fameux Nogokpo qui est craint par presque tout le monde parce qu'il suffit qu'on aille dire que ce que tu as volé, il faut que tu ramènes pour que toi-même tu saches que tu as un délai de vie raccourci si tu ne t'exécutes pas. Et aujourd'hui, il est prise en charge. Cette façon-là, elle est prise en charge de façon moderne. Ce n'est plus le mysticisme. Ce n'est plus les incantations. Ce n'est plus ce que nous appelons en termes scientifiques les ordalies. Mais c'est tout simplement la loi. L'État moderne a prévu qu'en réalité, il faut que les règles soient telles que elles dissuadent toute personne qui veut commettre un forfait. Non seulement lui, mais ses complices. Et pour certaines infractions, même ceux qui n'ont que connaissance de ce délit-là. Et parmi ceux qui ont connaissance des délits et qui doivent être vraiment sanctionnés, nous n'oublions pas un malfaiteur particulier qui parfois aime un malfaiteur sans savoir. nous voudrions parler tout simplement de celui que le droit appelle le receleur. Nous voulons parler du recel. Le recel qui est une faute pénale. Le recel qui est le fait pour toute personne qui a profité d'un vol de se voir puni pour ce profit qui est indu. Ou il le sait et il profite, ou il ne le sait pas mais il profite. Dans tous les cas, il est une personne à punir parce que cette personne-là permet à un voleur, à un assassin, à un meurtrier, en tout cas à un malfaiteur, de continuer à prospérer dans ce qui n'est pas une bonne chose pour la société. Aujourd'hui, nous voulons parler du recel, qui est une faute pénale. Nous allons donc parler du recel en tant que notion, voir ensuite les éléments qui permettent de dire qu'il y a recel, et enfin, nous terminerons comme d'habitude avec les sanctions qui sont pour nous les éléments à mettre à votre connaissance pour éviter que vous aussi, vous ne commettez les mêmes fautes pour avoir les mêmes sanctions. Recel est le fait de détenir ou de bénéficier de biens issus d'un crime ou d'un délit en sachant qu'ils ont été obtenus illégalement. Il se manifeste sous deux formes principales. Nous avons le recel de détention ou de transmission, qui implique un contact matériel avec la chose, comme le fait de cacher un bien qui a été volé. Très généralement, dans cette première catégorie, le receleur prend possession à titre temporaire ou à titre définitif de la chose volée pour l'écouler, pour la cacher ou pour la transmettre à autrui. Le recel de détention signifie donc que le receleur est entré en contact direct avec la chose qui a été volée, avec la chose qui a été obtenue illégalement, dans le but de cacher cette chose-là, en attendant de pouvoir l'écouler ou de pouvoir transmettre ça à autrui. Le second recel est le recel d'usage ou de profit. Il s'agit ici plutôt de tirer un bénéfice illicite de la chose, même si ce bénéfice est immatériel. Il faut faire usage du bien illicitement obtenu ou en profiter en l'ayant acquis à titre onéreux ou à titre gratuit. Dans la seconde hypothèse, le receleur est la dernière personne qui a contact avec la chose et il se la garde pour en utiliser ou pour en profiter. Il n'écoule pas, il ne transmet pas, il garde pour lui-même. C'est le dernier bénéficiaire de la chose qui a été volée. Quelle que soit la situation de recel, on se retrouvera toujours dans l'une ou l'autre de ces deux catégories-là. Ou bien le receleur a servi d'intermédiaire, ou bien le receleur est le consommateur final de la chose qui a été obtenue illicitement. Nous insistons bien sur l'élément illicite, parce que si vous recevez un cadeau de la façon la plus légale possible, il n'y a aucun problème. C'est le fait que le bien a été reçu suite à une illégalité que nous l'appelons une faute pénale et que c'est ça qui caractérise ce que nous appelons le recel. Il faut préciser que le recel est une infraction autonome. C'est-à-dire que cela punit toute personne ayant connaissance de l'origine illicite d'un bien et qui détient ce bien, transmet ce bien ou en bénéficie. Il n'est pas nécessaire que lui aussi il ait participé à l'infraction originale, qui peut être le vol, l'escroquerie ou le meurtre. L'essentiel, c'est qu'il ait retenu, détenu ou tenu la chose en sachant que cela provient d'un vol, d'une escroquerie, d'une filouterie, etc. Et donc, il ne faut pas dire ou il ne faut pas penser que seul le complice peut être auteur de recel. Vous pouvez ne pas avoir participé au vol ou à l'escroquerie, mais le seul problème, le seul fait que vous ayez utilisé la chose dans l'une des deux catégories que nous avons étudiées, vues tout à l'heure, ça suffit largement pour dire que vous avez fait du recel. Il est donc important de noter que le recel se distingue du vol lui-même, qui peut en être un préalable. La différence principale est que le vol est l'acte de s'approprier un bien appartenant à autrui, tandis que le recel est l'acte de détenir, dissimuler ou transmettre un bien en sachant qu'il provient d'un vol ou d'un autre crime ou délit commis par une autre personne. Le voleur n'est pas en même temps un receleur, non. Le voleur, il demeure le voleur. C'est celui qui n'a pas participé au vol, mais qui détient la chose pour cacher ou pour l'écouler, qui est appelé le receleur. Le receleur intervient donc après l'infraction initiale, alors que le voleur, c'est lui qui commet l'infraction initiale. Précisons encore une fois que le voleur se distingue du receleur. Le receleur travaille pour le compte ou avec la complicité du voleur, mais le voleur, c'est celui qui est allé prendre la chose illégalement pour transmettre à une autre personne que nous allons appeler le receleur. Ainsi donc, le recel nécessite un préalable. L'origine d'un bien en recel est une infraction préalable, un crime, un délit ou une autre faute pénale qui est commise par une autre personne, notamment le vol, l'escroquerie, l'abus de biens sociaux, etc. Mais pour parler de recel, il faut trois éléments essentiels que nous pouvons relever ainsi. Premier élément, il faut l'origine frauduleuse du bien. La chose qui fait de vous un receleur doit être détenue, doit être le fruit, doit être le résultat d'un délit. Obligatoirement, si ce n'est pas un délit, si ce n'est pas un crime, nous n'avons pas de recel. Si par exemple, vous cachez le bien qui appartient à quelqu'un d'autre, on ne dira pas que vous avez fait un recel, mais on dira que vous avez volé, puisque vous avez soutiré frauduleusement quelque chose qui appartient à quelqu'un. Mais si vous avez soutiré et que vous avez remis à quelqu'un qui cache cela pour vous, alors ce quelqu'un-là, c'est lui le receleur. Donc, première chose, le vol, l'escroquerie, la filouterie, l'abus de confiance, le crime, le meurtre, etc., doivent précéder le recel. Deuxième élément, c'est l'indépendance de l'infraction principale. Il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'infraction d'origine soit identifié, soit poursuivi, ou même que l'infraction ait été punie. La seule existence d'une infraction qui a permis d'obtenir le bien est largement suffisante. En réalité, quand on a volé un bien, quand quelqu'un a perdu un bien, on ne veut pas savoir si celui qui a volé a été arrêté. Ce n'est pas forcément suite à une enquête parce qu'il y a eu vol. Le simple fait qu'il y a eu vol, le simple fait que quelque chose ait été perdu suite à un vol, suite à une escroquerie, etc., c'est suffisamment un élément qui permet de déclencher la faute de recel. Donc, il faut comprendre que l'infraction qui a été préalable est une infraction qui est indépendante du recel. Troisième élément donc pour avoir le recel, c'est le lien avec la chose. Il faut qu'il y ait un lien entre le recel et l'infraction d'origine, qui est la caractéristique essentielle du recel, qui en fait une infraction accessoire ou d'un acte faisant suite à un comportement infractionnel, comme le blanchiment. Nous ne parlerons de recel que s'il y a un lien entre le vol ou l'escroquerie, ou en tout cas la faute pénale initiale, et le fait de détenir la chose indûment ou en ne sachant pas que la chose a été volée avant votre détention. Il faut faire une dernière précision quand même, qui concerne la nature du bien qu'on peut receler. Le bien qui peut faire l'objet du recel peut être aussi bien un bien meuble qu'un bien immeuble, un bien matériel qu'un bien immatériel. Le bien meuble, c'est le bien, c'est la chose ou le bien qu'on peut déplacer. L'immeuble, c'est le bien qui reste sur place. Le meuble, c'est une table, c'est une voiture, c'est une moto, c'est une clé, c'est un téléphone portable, etc. Et l'immeuble, c'est un terrain, c'est une maison, etc. Le bien matériel, c'est le bien qu'on peut toucher, qu'on peut tâter, qu'on peut palper. Alors que le bien immatériel, c'est le bien qui n'est pas encore, c'est le bien qui n'est pas matériellement touchable. Et donc, quelle que soit la nature de ce bien-là, ça peut faire l'objet d'un recel. On parlera de recel, par exemple, pour le produit de succession détournée. Quelqu'un est décédé et vous avez caché un bien qui appartient à cette personne-là en remettant ce bien-là à une tierce personne, à une autre personne. Et donc, vous avez volé, vous avez détourné. Et la personne qui a gardé pour vous est alors coupable de recel. Ça peut être une maison. Une maison qui vous est donnée, qui vous a été donnée indûment, frauduleusement, par quelqu'un pour faire sortir cette maison-là d'un patrimoine qui ne lui appartient pas. On parlera par exemple d'un huissier qui a été chargé de veiller sur les biens d'un particulier et qui s'amuse à faire un faux pour que le bien n'apparaisse plus dans le patrimoine de celui qui est le véritable propriétaire et on vous le confie à vous. On vous confie cette maison-là pour que vous puissiez faire semblant d'être devenu le vrai ou d'être le vrai propriétaire de cette maison. Vous serez puni de recel. Ou alors, de l'argent qui a été retiré à l'insu des autres héritiers et qui vous a été confié. Ou alors, le non-rapport d'une donation antérieure. On a fait une donation et quelqu'un n'a pas signalé cela. Et ça vous permet à vous de prendre ça comme si c'était à vous. Voilà autant de manipulations malhonnêtes qui peuvent engendrer la notion de recel. Ce qui existe très souvent, c'est surtout malheureusement avec le vol, mais c'est également avec les manipulations suite au décès de quelqu'un. Un grand frère aîné qui sait que, par exemple, le père a un terrain qui cache le titre foncier en le remettant à quelqu'un qui est son ami pour que la personne puisse garder ça en attendant que les autres héritiers soient silencieux parce que ne sachant pas qu'il y a ce bien-là, et puis il va en prendre possession. Vous, à qui le document a été confié, vous, à qui le bien a été remis, vous serez coupable de recel. Mais celui qui a détourné la chose, celui qui a volé la chose qui ne lui appartient pas, lui, il serait coupable de vol ou d'escroquerie ou d'abus de confiance ou d'abus de biens sociaux, etc. Mais vous, c'est le recel.
Monsieur, avant ma chute, j'étais vraiment riche et heureux. J'étais le plus grand conseiller des hommes, même en haut lieu. On faisait appel à mes services pour prendre malheureux. Monsieur, tout le monde signait avec moi en fermant les yeux. Sur terre, le péché est un business fructueux. Je faisais mon chiffre en vendant le désir et le feu. Oui, le malheur des le pouvoir au portefeuille des plus généreux. Mais l'époque a changé,
l'époque a changé.
Les hommes n'ont plus besoin de moi, oui l'époque a changé,
l'époque a changé.
J'ai tout perdu depuis que les hommes font bien pire que moi. Le diable s'habille plus en Prada. 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 Les hommes lui ont fait des fausses. Lui ont pris sa femme et ses fausses. Il n'a plus d'emprise sur le globe. Depuis qu'on lui a pris son job.
Monsieur, les hommes d'aujourd'hui ont dépassé tous mes voeux. Certains exercent leur folie meurtrière au nom de Dieu. Le pétrole est une raison légitime pour mettre le feu. Certains pays rétrécissent, mais bon, restons silencieux. Malgré sa richesse, l'Afrique a toujours un creux. La télé m'a volé l'éducation de leur morveux. Internet brûle les neurones beaucoup plus que la beuh. L'enfer n'est plus chez moi, mais bel et bien chez vous, monsieur.
Mais l'époque a changé. Les hommes n'ont plus besoin de moi, oui, l'époque a changé. J'ai tout perdu depuis que les hommes font bien pire que moi.
Le diable s'habille plus en Prada.
Le diable s'habille plus en Prada. Les hommes lui ont fait les poches. Lui ont pris sa femme et ses gosses. Il n'a plus d'emprise sur le globe. Depuis qu'on lui a pris son job. Non, le diable s'habille plus en Prada.
Oui, l'élève a dépassé son maître.
Oui, l'élève a dépassé son maître.
Oui, l'enfer est bien plus gros sur terre.
Depuis que les hommes font pire que Lucifer.
Oui, l'élève a dépassé son maître.
Oui, l'élève a dépassé son maître.
Oui, l'enfer est bien plus gros sur terre.
Depuis que les hommes.
Nous remercions Rachel qui a su nous trouver la bonne musique. Parce que si même vous n'êtes pas puni sur le plan spirituel, si vous n'avez pas la crainte de Dieu, n'empêche que le législateur, lui, l'a prévu. Il a prévu comment vous sanctionner. Mais sauf que, comme c'est une faute pénale, il nous faut d'abord réunir les trois éléments obligatoires avant de pouvoir vous sanctionner pour recel de bien. Le premier élément, il existe. C'est de savoir que le recel est prévu et puni par les articles 469 à 472 du Code pénal du Togo. Ce serait peut-être inutile de rappeler que le recel est puni en droit français également. Et donc, dans la plupart des pays qui utilisent le droit romano-germanique. L'élément matériel, nous en avons parlé suffisamment tout à l'heure pour expliquer ce que nous appelons le recel, pour le distinguer du vol, pour le distinguer des autres infractions qui n'en sont que les préalables. L'élément matériel, c'est le fait de détenir d'abord, de dissimuler ou de transmettre une chose par un moyen quelconque, ou de faire office d'intermédiaire, afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit.
Donc, la première situation, c'est que vous avez détenu la chose. Vous avez tenu la chose. Vous avez retenu la chose. Pour pouvoir dissimuler ça, ou pour pouvoir transmettre ça, par n'importe quel moyen, ou vous avez été juste un intermédiaire pour transmettre à quelqu'un d'autre, en sachant, évidemment, que ce que vous êtes en train de faire passer à quelqu'un d'autre, ce que vous êtes en train de cacher, est une chose qui est issue d'une faute qui est punissable et punie par la loi. Et donc, vous rentrez vous aussi dans la catégorie des personnes qui sont en conflit avec la loi, puisque vous avez collaboré en cachant, en transmettant ou en retenant, en détenant la chose qui a été le fruit d'une malversation. Ce n'est pas le seul élément matériel, puisque la loi revient pour dire que constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier par tout moyen quelconque du produit d'un crime ou d'un délit. Ici encore, je vais faire référence à nos couches vulnérables, notamment les enfants, notamment les malades, notamment les jeunes filles, qui ne se posent parfois pas deux questions et reçoivent malheureusement des produits d'un délit, les produits d'un crime. Vous savez par exemple que quelqu'un qui est un frère, un ami, ne travaille pas. Il n'a aucun boulot réel et il vient vous offrir un téléphone portable, un Samsung, un iPhone 16, machin, tout ça là. Et vous avez pris. Vous croyez qu'il l'a fabriqué ou quoi? Et donc, c'est sûr qu'il y a une présomption que notre ami a dû voler ça quelque part. Et vous, vous avez accepté ce cadeau-là. Faites attention, parce que vous pouvez être poursuivi pour recel de biens, puisque vous avez, conformément à la loi, en connaissance de cause, vous avez bénéficié du produit d'un crime ou du produit d'un délit. Voilà donc les deux éléments matériels. L'élément intentionnel ou l'élément moral semble être déterminant parce que il ne s'agit pas simplement de recevoir. Il s'agit surtout de recevoir en connaissance de cause. La connaissance de l'origine frauduleuse du bien est l'élément intentionnel important. Cet élément intentionnel est si important que ça nous permet de nuancer un tout petit peu ce que nous disons sur le recel. L'auteur du recel doit savoir ou doit ne pas pouvoir ignorer que la chose provient d'un crime ou d'un délit au moment de sa détention, de sa transmission, de son utilisation ou de son profit. Je répète, il doit savoir ou il doit pouvoir ne pas ignorer que. C'est tout à l'heure, c'est ce que je voulais expliquer en disant que vous-même, vous savez que la personne ne travaille pas. Et donc, la personne ne peut pas avoir ces moyens-là. Vous devez être donc étonné de la générosité envers vous, puisque la personne n'a pas les moyens d'avoir ce geste-là, de permettre de faire ce geste-là. Et donc, ça doit pouvoir vous interroger. La simple connaissance de l'origine frauduleuse et non une connaissance précise du crime suffit. Mais le doute ou la négligence ne sont pas suffisants pour caractériser l'infraction. L'intention doit exister au moment de l'acquisition ou de l'acte de recel, c'est-à-dire au moment de la détention, de la dissimulation, de l'usage, de la transmission ou du profit du bien que vous avez reçu. L'intention de recel peut être déduite par les juges à travers des éléments de conteste. C'est-à-dire que pour être sûr que vous avez compris ce que nous mettons dans la connaissance, la loi dit que le juge doit pouvoir apprécier que si vous aviez eu ou si vous aurez pu avoir les moyens de savoir que la chose provient d'un délit, d'un crime. Un premier conteste ou une première possibilité, c'est par exemple si vous avez acquis la chose avec un prix qui est manifestement dérisoire pour ce bien-là. Vous avez acheté un téléphone, je donne un exemple comme ça, un téléphone iPhone 16, vous l'avez acheté à 20 000 francs. Mais vous-même, vous devez savoir qu'en réalité, ça ne peut être que du vol. Parce que celui qui l'aurait acheté pour revendre véritablement ne peut pas s'amuser à vous le vendre à ce prix-là. Vous avez acheté une voiture ou une moto, mettons une moto à haute jouée. Vous l'avez acheté à 50 000 francs. Mon ami, quel que soit ce que vous direz, tout le monde saura que vous êtes sûr que la chose a été volée. Parce que le prix est véritablement dérisoire. Un autre conteste, c'est l'absence de justificatif d'achat pour l'utilisateur. Vous avez acheté quelque chose sans facture, sans reçu. Comment vous allez démontrer que vous ne savez pas que la personne qui vous a vendu n'est pas un véritable vendeur et qu'il est probablement ou auteur ou complice d'un délit qui lui a permis d'avoir la chose que la personne vous a remise ou vous a vendue. Et donc, ça aussi, c'est une façon pour le juge de vous dire que vous êtes un receleur parce que vous n'avez aucun papier là-dessus. Il y a des choses pour lesquelles on n'a pas besoin de papier. Vous achetez du pain, vous achetez un petit savon quelque part. Oui, vous n'aurez pas de reçu là-dessus. Mais comment vous pouvez acheter une montre, une moto, une voiture et dire que vous n'avez pas de reçu, vous n'avez pas de facture, vous n'avez aucun élément pour justifier que vous l'avez acheté. Ni celui qui vous l'a vendu ne vous présente aucun élément, aucun document pour justifier comment lui-même il est devenu propriétaire. Parfois, c'est le comportement de celui qui détient la chose au moment où il est interpellé. Lorsqu'il se mélange les pédales, lorsqu'il ment, lorsqu'il donne des versions qui ne sont pas concordantes, on se rend compte qu'il sait l'origine et il tente comme un beau diable à se justifier. Ça aussi, c'est une possibilité pour savoir que vous aviez eu une intention malicieuse. L'utilisation de la chose sans se poser de questions sur son origine peut être également un élément qui conforte votre intention de faire du recel. Parce que si on vous offre quelque chose, la moindre des choses, c'est de chercher à voir celui qui m'offre là. A-t-il les moyens? A-t-il une raison valable de détenir sa chose? Et a-t-il les éléments qu'il peut vous transmettre pour prouver que vous êtes un véritable propriétaire?
On choisit pas sa famille, On choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Être né quelque part, être né quelque part, pour celui qui est né, c'est toujours un hasard.
Il peut arriver que nous soyons en possession d'un bien dont on ignore l'origine frauduleuse. C'est des choses réelles de la vie. Seulement, le droit considère que dans certains cas, une personne devait savoir que le bien est illégal, surtout s'il y a eu des circonstances suspectes lors de l'acquisition. On parle d'aveuglement volontaire, car en réalité, il faut acquérir un bien chez un vendeur, j'allais dire officiel de ce bien, qui en a fait officiellement et légalement profession. Ne pas le savoir constitue un véritable danger, puisque vous pouvez être poursuivi pour recel. Un recel sans le savoir, que nous appelons recel involontaire, et qui peut entraîner des sanctions pénales comme une peine de prison et une amende, même sans l'intention criminelle de ce receleur-là. Pour se défendre, il faut démontrer sa bonne foi et prouver qu'on ne savait pas et qu'on ne pouvait pas savoir que le bien provenait d'une infraction. Par exemple, en montrant que l'acquisition s'est faite dans des conditions normales et sans prix suspect, avoir des justificatifs d'achat légaux ou avoir acheté le bien dans un magasin réputé ou auprès d'une personne de confiance. Le problème demeure compliqué dans nos pays où le secteur informel est le moyen le plus fréquent d'acquisition des biens et où des vendeurs ambulants ou des vendeurs installés sur le trottoir qui ne sont pas capables de vous délivrer un reçu sont les gens qui véritablement vendent. Est-ce que vous pourrez dire que vous n'avez pas la possibilité de régler cela en allant dans un endroit où vous pourrez retrouver la personne qui va pouvoir justifier si elle était véritablement propriétaire de la chose? Vous avez, par exemple, des marchés informels pour ceux qui ont des véhicules. On pourrait citer, par exemple, le fait pour les gens d'aller acheter à Koresewa des pièces de rechange de voitures ou de motos sans aucun papier, généralement. Est-ce que vous aurez décemment la possibilité de dire que vous avez cru à l'honnêteté de celui qui vous a vendu la chose? Non, non. Il vous suffit d'aller dans un magasin où vous avez la possibilité d'avoir des papiers en bonne et due forme. Sinon, vous serez poursuivi pour recel. Et là, vous ne pourrez pas vous en sortir. Parce que en dehors du recel, qui, tel que nous l'avons vu, il y a d'autres infractions qui sont assimilées au recel et qui ont exactement les mêmes peines que le recel. En effet, l'article 471 va dire que le fait par une personne de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie ou de ne pouvoir justifier de l'origine d'un bien détenu tout en étant en relation habituelle avec une ou plusieurs personnes qui se livrent à la commission de crimes et de délits commet un délit qui est assimilé au recel. C'est-à-dire que si vous vivez au-dessus de vos moyens ou si vous vivez avec quelqu'un qui ne peut pas justifier son train de vie, mais qui vous aide à vivre, vous pouvez être poursuivi pour recel parce que cette personne-là, si on se rend compte que cette personne-là vole, fait de l'escroquerie ou autre délit, vous êtes alors un receleur. Parce que vous savez que la personne ne peut pas vous offrir ce qu'elle vous offre là. Le recel, nous l'avons vu sous toutes ses formes. C'est vous qui détenez le bien qui est le fruit d'un délit, d'un crime. Le recel, c'est également vous qui avez acheté quelque chose chez quelqu'un qui n'est pas un vendeur habituel et qui l'aurait volé avant, ou l'aurait volé ou aurait commis une faute avant de l'avoir et de vous l'avoir vendu. Le recel, c'est encore vous qui vivez aux dépens de quelqu'un qui ne fait rien et qui probablement vit des délits ou du crime. C'est encore vous qui utilisez des biens qui vous sont remis par quelqu'un qui n'a pas les moyens de se procurer ces biens avant de vous les remettre. Receleur involontaire ou receleur volontaire, vous serez puni par la loi pour recel. Et la sanction est bien organisée par l'article 470 du Code pénal qui dispose que vous êtes puni d'une peine d'emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende d'un million à trois millions de francs CFA ou de l'une de ces deux peines-là. Mais cette peine peut être aggravée et portée à 5 à 10 ans avec une amende de 5 millions à 20 millions dans deux cas. Premier cas, lorsqu'il est commis de façon habituelle ou en utilisant des facilités procurées par l'exercice d'une activité professionnelle. Nous pouvons, à titre d'exemple, citer ici le cas de certains revendeurs de pièces de rechange qui mélangent les produits légalement acquis avec des produits volés. Leur profession leur permet d'écouler facilement les produits illicites. Ils sont donc des receleurs. On les trouvera, par exemple, au niveau de certains coins de vente d'appareils électroménagers, notamment des appareils téléphoniques. On les trouvera également au niveau des pièces de rechange de motos et de véhicules. On les trouvera même dans la vente ou la revente de motos. Attention, c'est une aggravation parce que votre métier vous a permis de cacher, de camoufler que vous êtes un receleur. L'autre, c'est quand vous avez commis en bande organisée avec une partie de la bande qui opère dans l'acquisition illégale et l'autre partie qui écoule les produits illégaux. Et donc, vous avez une bande qui vous permet de faire le recel en étant bien organisé. En dehors de ces deux cas, le même article a prévu que si le receleur a eu connaissance au moment du recel de circonstances aggravantes donnant à l'infraction principale une qualification criminelle, comme un vol à main armée ou un vol avec homicide, il est puni de la même peine qui est applicable à la peine qui a permis de se procurer le bien. C'est-à-dire, si quelqu'un a tué pour voler un bien et vous recelez le bien, vous serez puni de la même façon que cette personne qui a tué avant de prendre parce qu'il y a une circonstance aggravante liée à l'infraction préalable. Cher ami auditeur de Civisme et Droits du Citoyen, un homme averti en vaut deux selon ce qui se dit. Et donc, vous savez aujourd'hui que vous ne devez avoir que des choses obtenues de façon légale, de façon officielle, en toute quiétude, avec les pièces justificatives à portée de main. Restez avec nous. Que Dieu vous bénisse et ne risquez pas de prendre la qualification de receleur.